à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour.
Dwayne.
Salut.
Et de Mordren.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous parlerons de la cérémonie la plus pourrie dédiée aux récompenses du jeu vidéo, les Video Game Awards. Mordren vous fera un petit coup de gueule parce que le pauvre a dû travailler très tard pour couvrir cette cérémonie, n'est-ce pas?
Oui.
Et justement, par rapport à cette cérémonie, nous aborderons un certain nombre de titres qui ont été annoncés. On vous fera le détail tout à l'heure. Ensuite, nous ferons un petit coup de gueule sur Final Fantasy VIII, qui ressort sur Steam. On évoquera le cas de Konami qui déraille complètement. Et enfin, on parlera un peu d'un petit débat sur la taxe qui est prévue pour le jeu vidéo français. Le financement du jeu vidéo français, c'est un sujet qui nous intéresse. Donc, comme ça a été évoqué récemment, bah écoutez, on va vous en parler. Enfin, Dwayne, je crois que tu as un studio dont tu veux nous parler.
Voilà, Tiny Bun Games. Donc, il y a un petit spotlight sur eux.
Voilà, et on terminera l'émission là-dessus. Donc, Mordren.
Oui.
Video Game Awards. C'était comment?
Alors, le pire, c'est que c'est même plus les Video Game Awards, c'est les VGX. Et donc on sait concrètement ce que ça veut dire, VG, donc Video Games, sauf que le X, ils sont toujours infoutus de nous le dire. Du coup, on ne sait pas exactement comment se référer à cette cérémonie qui n'est plus en fait une cérémonie, c'est simplement une émission. Puisqu'en fait, on nous fait voter pour nos jeux préférés, nos studios préférés, etc., etc. Mais les remises de prix ne sont pas effectuées en fait durant l'émission.
D'accord.
Voilà. Alors qu'à l'époque, à l'époque vraiment, on tendait vraiment vers des Oscars du jeu vidéo. Là, c'est plus du tout le cas. Donc déjà un petit peu mensonger en fait comme publicité. Après, bon, est-ce que c'est vraiment pour, est-ce que c'est vraiment si horrible que ça? Pas forcément, puisque ça permet de se concentrer fondamentalement sur les choses qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les exclusivités, les premières mondiales, etc., etc. Sauf que là encore, on a affaire en fait à un format qui est un peu bâtard parce qu'on a 3 heures de show entre guillemets, hein, entre grosses guillemets le show, et finalement pas grand-chose à se mettre sous la dent parce que on se rend compte finalement cette année que les éditeurs font pas tant confiance à cet événement-là, puisqu'on a le droit à des trucs qui sont soit très très courts, soit très très mal préparés. Je pense notamment à Destiny qui balance un trailer de trucs qu'on a quasiment déjà vu à chaque fois, enfin depuis longtemps, et que du coup, est-ce que c'est vraiment une première mondiale? Je me le demande. Du coup, honnêtement, moi je trouve que, enfin, je vais dire que je suis assez mitigé, mais bon, c'est certainement bien pire que ça. Je trouve que c'est mal monté, c'est mal fichu, c'est moche, c'est pas propre, et les présentateurs, sont complètement mauvais. Enfin, Joel McHale, il a beau être très marrant dans Community, il avait vraiment pas sa place ici parce que son cynisme et son humour cinglant en fait collait pas du tout à ce genre d'émission qui doit être un petit peu festif. Et là pour le coup, je trouve que bon, je me suis couché à 6 heures du matin pour pas grand chose en fait. J'aurais mieux fait de voir tous les trailers le lendemain en fait.
En résumé, c'était long et chiant. Voilà. ATH.
Un peu comme mon résumé.
Ouais, c'était juste pour dire qu'on est passé de la cérémonie des Oscars à la cérémonie des Gérards en fait. Ce qui récompense les pires films qu'on a en France, mais
bon. Après, je trouve quand même méchant. Il y a eu un certain nombre d'annonces. Bon,
ah,
c'est sûr que s'ils les avaient, ATH. Je suis désolé, j'ai connu des E3, il y avait moins d'annonces que ça.
notamment cette année. D'ailleurs, justement, pour revenir à ça, je trouve que c'est l'émission qui entache un petit peu son contenu. C'est-à-dire que si on avait eu juste le contenu, moi, je pense que j'aurais été le plus heureux du monde. Mais l'émission fait que c'est bancal en fait. C'est-à-dire que c'est génial les annonces qu'on a eues, tout ce qui est sur Telltale et tout, on va y revenir, mais en dehors de ça, tout ce qui est autour, ça valait pas le coup en fait. Ça valait pas le coup de rester debout. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. ça valait pas le coup de rester debout en fait pour regarder l'émission. Il valait juste, fallait juste regarder les annonces en direct et même pas regarder l'émission, je trouve.
Ah oui, non, mais clairement l'émission telle quelle est inutile. Hein. Je veux dire, il y a aucune récompense. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Ça me dépasse complètement. Les années précédentes, ils avaient trouvé un bon truc, je trouve. Ça faisait un peu cérémonie, etc. Bon, moi, je suis pas forcément client de ça, tu vois, mais au moins, ça faisait,
Ouais, voilà, au moins, ça a la classe,
Ouais, voilà, les gars se ramenaient en costard, enfin, voilà. Il y avait un événement, tu vois. Là, c'est une émission télé qui dure 3 heures. Sauf que les gars sont pas drôles. Comme Mandrin l'a dit, c'est monté à l'arrache. Enfin, voilà, aucun intérêt, quoi. L'émission en elle-même, le format, c'est totalement pourri.
Puis même les trailers, hein. Les trailers qu'on a déjà vus à l'E3, ils te rajoutent 3-4 secondes de vidéo en plus, super.
Après, j'ai pas l'enthousiasme non plus de Mordrain jusqu'à ce point-là pour les annonces, mais je trouve ça intéressant. Intéressant, oui. Mais sans plus, quoi, on va dire. Donc, on va en parler. Mordrain, toi, je crois que c'est le truc qui t'a intrigué, en tout cas, c'est No Man's Sky. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, ouais, c'est la question piège.
Ben, c'est vraiment la question piège, parce que concrètement, on sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un jeu indépendant, qui défonce visuellement. Enfin, je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi. La grosse idée derrière ce jeu, c'est que tout est réalisé de manière procédurale. Au niveau de l'univers, on est sur quelque chose de d'un peu intergalactique en fait, avec des vaisseaux spatiaux, la possibilité en fait d'explorer des planètes donc sur leur surface terrestre, mais aussi de partir dans l'espace avec donc des batailles spatiales, etc., etc. On ne sait pas exactement vers quoi on se dirige parce que le discours du développeur qui était présent en fait était un petit peu flou, notamment lorsqu'il a dit que c'était une expérience qui a été à la fois solo, multijoueur et persistante. Et je vous cache pas que avec Tyron, on a pas mal de doutes quant à cet aspect persistant parce qu'on est quand même sur un studio indépendant qui est composé de 4 personnes. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu bizarre. Moi j'ai envie d'être super enthousiaste en fait par rapport à No Man's Sky, mais il y a tellement de points d'interrogation encore que je sais pas exactement comment le prendre.
Ah bah moi j'ai juste un problème avec le jeu, c'est que je ne sais pas ce que c'est en fait, c'est tout. Hein. Alors je sais qu'a priori il y aura du sandbox dedans, ouais, ok. Ouais, mais dans sandbox tu fais quoi? Tu tapes sur la gueule, tu crées une colonie, tu fais quoi? On ne sait pas. Donc déjà ça me pose problème. Et ensuite le fait que ça soit persistant, moi ça me rend super dubitatif parce que faire un truc persistant c'est compliqué. Et les mecs ils sont que 4 quoi, donc voilà, je suis dubitatif. Donc je vais donner la parole à Dwayne et ensuite à TH.
Non, c'est vrai, c'est vraiment ça qui m'a choqué, c'est-à-dire que j'ai vu le truc, j'ai fait ah oui, c'est très beau. Après lorsque le mec il a commencé à parler, à un moment ils disent ouais, donc on est 4, j'ai fait attends, parce que monde où, déjà le truc est ouvert, génération procédurale, le fait qu'il y ait du multi, donc apparemment le développeur disait donc si quelqu'un va effectivement faire une action qui peut avoir un impact sur l'univers, donc ça va ensuite être permanent. Donc effectivement les ambitions sont vraiment énormes pour un petit studio de 4 personnes, surtout lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait avant, donc c'est Joe Danger, c'est un petit jeu de cascade, voilà, donc il n'y a pas non plus le background pour voir ce qui peut être fait, mais en tout cas déjà dans un premier temps avec ce qu'on a vu, c'est assez beau effectivement. Il y a une ambition, on voit qu'il est passionné par son projet, donc c'est vraiment à voir, mais je suis pas encore excité par le projet vu qu'on sait pas effectivement ce que ça va être au final.
ATH.
Moi c'est un jeu quand même je pense à surveiller. Déjà c'est un jeu indépendant et comme vous l'avez dit c'est assez beau. En plus de ça, un jeu indépendant en 3D c'est quand même assez rare. Des jeux qu'on a de cette qualité là. En général on a des jeux indépendants en 3D isométriques. Ouais, non je veux pas dire moche parce qu'il y a certains trucs, il y en a certains qui ont des directions artistiques assez intéressante, je veux dire, mais là, pour moi, quatre personnes qui font un jeu comme ça, c'est intéressant. En plus, ça, les promesses qui ont été faites par les développeurs, c'est que chaque planète qu'on verra, même si c'est une petite étoile dans le ciel, on pourra y aller avec un vaisseau. Quelque chose qui sera sur la map, même qui sera très très loin, on pourra y accéder. Après, j'espère que ça sera pas vide et que ça sera pas désertique. Mais je pense que c'est un truc quand même à surveiller de près. Et puis, maintenant, d'avoir des jeux indépendants de cette qualité-là, je pense que ça pourra ramener des choses assez intéressantes. Et voilà.
Marwan.
Ouais, je voulais juste ajouter que c'était quand même un signal assez intéressant de voir qu'on a une première mondiale d'un jeu indépendant au VGX. C'est pas tout le temps. Et je trouve que ça fait plaisir en fait qu'on ait un espèce d'éveil de ce genre d'événements-là qui sont un petit peu des, comment dire, c'est le son de, enfin c'est les trompettes en fait des jeux triple A. Et là pour le coup, on a un jeu indépendant qui en plus fait sensation. Et ça, voilà, je trouve que c'est un signal assez fort quand même de l'industrie. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a surpris parce que on savait pas du tout qu'on allait avoir ce genre de truc et ça m'a fait plaisir en fait de voir un jeu indépendant dans cette émission là.
Après bon, je voudrais pas faire ma langue de pute, mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est un signal de l'industrie ou est-ce que c'est parce que il y avait pas des annonces genre Fallout 4 et qu'il fallait remplir les cases.
Ouais, je sais pas.
J'en suis pas convaincu, tu vois, que ça soit vraiment un signal parce que honnêtement, vu la tronche de la cérémonie, je veux dire, on te fait quand même un super teaser pour t'annoncer quoi, Tomb Raider porté sur console next gen. Ouais. Et il y a eu plein de moments comme ça, tu vois, où j'ai eu envie de me facepalmer la gueule, si tu veux. Parce que,
pas seul, hein.
au niveau des gros, en tout cas, c'était quand même, d'une manière générale, assez affligeant, quoi.
Ouais.
Je veux dire, Telltale et Gearbox, c'est intéressant. On va l'aborder tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, Telltale était à l'honneur durant cette cérémonie. Mais pas des gros jeux, tu vois. Borderlands, c'est gros, mais tel, fondamentalement, on sait que ça va pas être des jeux absolument énormes, des triple A, etc., quoi. Et justement, les triple A, ouais, quoi, enfin, on n'a pas vu grand-chose, quoi, à part Dying Light, qui a vraiment montré des trucs, voilà, quoi. Donc, justement, Telltale, alors, deux annonces, Borderlands d'un côté.
Tales from the Borderlands, exactement.
Ouais, voilà. Donc Gearbox confie la licence au studio pour, on imagine, faire un jeu narratif, hein, même si on n'a pas eu de précision, il me semble, à ce sujet.
Oui.
Et aussi, autre grosse énorme annonce, ils vont faire un jeu Game of Thrones. Et là, Maureen et moi...
C'était déjà en rumeur, en fait, et ça s'est confirmé, donc c'est plutôt cool.
Donc voilà, les groupies de Game of Thrones que nous sommes, bah écoutez, on est très heureux. D'autant plus que, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais Telltale, c'est quand même un studio, bon, je trouve quand même que, en tout cas sur The Walking Dead, ils ont réussi à bien capter l'essence des bouquins, quoi. Dwayne. Ouais.
Oui, voilà, donc moi, après, pour les annonces, effectivement, donc Game of Thrones, bon, c'est une rumeur, voilà, qui court depuis un petit moment, donc on en était presque déjà sûr, ils confirment. Donc après, ils disent eux-mêmes qu'ils sont en train encore de travailler sur le casting, sur l'histoire. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc pour Borderlands, ça a l'air plus avancé. Ils ont au moins un titre. Ils ont déjà fait effectivement un petit trailer. En plus, ça a l'air super beau le petit trailer qu'ils nous ont fait là en cel shading.
En tout cas, on retrouvait l'ambiance de.
Avec l'ambiance. Moi, c'est surtout ça. J'ai bien envie de voir ce que Telltale Games va faire avec un univers comique, donc là, l'univers de Borderlands se prête bien avec Handsome Jack qui nous montre déjà un peu son talent dans le teaser. Donc voilà, moi je suis assez excité par Tales from the Borderlands et à côté pour Game of Thrones, donc évidemment ça va être le gros morceau je pense ensuite, donc à voir s'ils vont réussir à capter l'essence de la série, donc voilà.
ATH, toi par contre, je crois que pour le coup t'étais beaucoup moins emballé que nous, quoi.
Ouais, carrément, parce que déjà il y a la saison 2 de Walking Dead qui arrive, que Telltale est en train de faire. Ils sont en train de travailler aussi sur The Wolf Among Us. Plus là, il y aura donc Tale of Borderlands, plus Game of Thrones, ça va faire beaucoup. Et en plus de ça, j'ai peur que d'une certaine répétitivité dans le schéma narratif qui a été instauré donc par Walking Dead. Et en fait, moi, j'ai peur pour la qualité des futurs titres à venir, si ça va pas entacher la production des futures sorties. Parce qu'on se rappelle quand même, avant le succès de Walking Dead, ils ont quand même fait Jurassic Park et Retour vers le futur, qui étaient vraiment des succès en dents de scie et qui n'avaient pas l'aura du studio qu'on connaît tel que l'on connaît aujourd'hui. Mais et voilà, moi c'est vraiment ça qui me fait peur. Après c'est sûr que c'est intéressant d'avoir pour ceux qui sont fans de ces univers là, parce que moi par exemple le jeu qui m'intéresse le plus dans tout cela c'est The Wolf Among Us, car je ne connais pas le comics et c'est un nouvel univers que je découvre. Mais tout ce qui est Walking Dead, Borderlands que j'ai déjà fait en jeu, c'est voilà, c'est bien, mais ça c'est pour ceux qui veulent enrichir le matériel de base, quoi, on va dire. Et ceux qui veulent un univers plus persistant, qui agrandissent un peu leur expérience, c'est bien, mais c'est vraiment la qualité que j'ai peur que sur le final que ça entache.
Alors moi, là où je les attends en tournant, c'est que bon, je vous avoue, pour moi, je ne considère pas The Walking Dead comme un jeu, en fait. Pourquoi ? Parce que on a grosso modo zéro impact sur l'histoire, quoi. En gros, on est un espèce d'ambianceur qui choisit A ou B, et A ou B, ça change l'ambiance de la scène, quoi. En gros. Moi, ce que j'attends, alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec The Wolf Among Us, c'est enfin des choix qui ont un impact sur l'histoire, et là j'aurais peut-être enfin l'impression d'être sur un jeu. Après, je dis pas que j'ai pas apprécié The Walking Dead. Pour moi, c'est un visual novel interactif très sympathique. D'autant plus qu'ils ont vraiment bien réussi à capter ce qui fait le sel de The Walking Dead, à savoir pour moi en tout cas qu'est-ce qui se passe quand l'être humain et disons libéré des entraves de la société, quoi, on va dire. Et vraiment, je trouve qu'ils ont bien réussi à capter ça, et du coup je me dis que même ne serait-ce qu'un visual novel interactif sur Game of Thrones, je suis preneur. Après les gars, ils ont intérêt à faire gaffe, parce que c'est quand même Game of Thrones, et ouais. Game of Thrones, déjà ils ont une horde de fans qui vont surveiller le moindre détail pour voir ce qu'ils vont faire avec. Et en plus, le truc, c'est que Morgan le disait tout à l'heure en off, Game of Thrones, c'est pas The Walking Dead, quoi. L'univers est extrêmement riche, c'est bourré de détails. T'as pas le droit à l'erreur, quoi, sur cet univers-là. Tu peux pas te permettre des approximations, quoi. Et comme ATH vient de le dire, du coup, je me dis que comme ils ont quand même pas mal de projets dans les tuyaux, là, j'espère en tout cas qu'ils vont mettre une équipe à plein temps sur Game of Thrones, parce que vraiment, c'est un univers qui est super difficile à aborder, quoi. Déjà, c'est un univers qui est difficile à aborder quand tu dois le lire, alors j'imagine même pas quand tu dois faire un truc dans le même univers, quoi. Faut rester cohérent, faut faire gaffe aux spoilers aussi, mine de rien. C'est un truc très important. D'ailleurs, on sait pas vraiment quelle période ça va couvrir sur les romans, etc. Parce que ça se trouve, ça va couvrir les romans 3 et 4, par exemple. Enfin, je dis un truc au hasard, tu vois. Ouais. Et moi, du coup, je pourrais pas y jouer parce que je suis pas encore là, donc voilà. Bref, c'est quand même assez compliqué à aborder. Et en plus, à côté de ça, il faut dire que il y a eu entre-temps le jeu fait par nos petits français, c'est Cyanide, je crois, qui avait fait le jeu. Le RPG. Et franchement, c'est en termes de scénar, en tout cas, de cohérence avec l'univers, c'est un putain d'excellent jeu. Donc ils ont il y a du lourd en face, hein. Il y a déjà eu du très bon qui a été fait en termes d'histoire sur Game of Thrones, et va falloir être à la hauteur, quoi, on va dire. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, Tomb Raider Next Gen. Ouais, super. Donc Mordrain, ça t'excite, hein, Dwayne aussi,
En fait, comme le disait ATH en off, tous les gens qui voulaient jouer à Tomb Raider, ils l'ont déjà acheté, en fait, sur, sur Current Gen ou sur PC. Et du coup, est-ce que c'est vraiment la peine de se lancer dans un portage Next Gen? Je suis pas certain. Et puis bon, je trouve que c'est un peu chiche de se lancer, en fait, dans, dans ce genre de truc, de faire du teasing en fait là-dessus pendant une semaine en disant voilà, on va vous montrer deux jeux, Sif et autre chose. Et tout le monde se dit ah ouais, ça va être Tomb Raider 2, machin et tout, alors qu'on sait pertinemment que Crystal Dynamics ne travaille pas sur un deuxième jeu, enfin sur une suite à Tomb Raider. Je trouve que c'est dommage en fait d'avoir fait du teasing pour finalement que ça retombe à plat en fait. Voilà, c'est on fait pas une première mondiale en fait sur un portage. C'est ça n'existe pas. Enfin, c'est assez dommage. Du coup, et en plus, si c'est pour montrer un trailer qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on avait déjà vu il y a 6 mois, voilà. Moi, ça, j'ai eu l'impression en fait de regarder le jeu PC en fait tourner.
ADH.
Ouais, en gros, pour rajouter à ce qu'a dit Mordren, que je trouve quand même assez dur avec Tomb Raider, parce que faut savoir qu'il y a tous les DLC qui sont inclus dedans, hein, donc il faut absolument en passer à la caisse, monsieur, je suis désolé. Non, mais en fait, ouais, c'est un gros foutage de la part de Square Enix de faire un teasing comme ça, et en gros, après, ils te ressortent le même jeu qui est grosso merdo, la version PC qui arrive sur PlayStation 4 et Xbox One, avec, bon, t'as tous les DLC, etc. Après, faut voir le prix. Si le prix est, à, je sais pas, dans les 20-30 euros, mais ça, j'y crois pas trop, ça pourrait le faire pour ceux qui n'ont pas encore craqué. Mais là, comme je vous en parlais tout à l'heure en off, le plus grand manque pour moi, le Tomb Raider, quitte à sortir un portage, ils auraient pu faire en même temps la version Wii U pour les possesseurs Nintendo qui n'ont pas pu toucher à cet excellent titre. Parce que malheureusement, on sait que voilà, la Wii U a peine à décoller. C'est pas que Tomb Raider que ça va se vendre, mais ouais. Pour ceux qui, même en démat, tu vois, à la limite, ils pourront y jouer eux aussi, parce qu'elle propose en gros les mêmes capacités que la PlayStation 3 et la Xbox 360. Ils auraient pu sortir une version du même jeu, et voilà, comme ça aurait fait un public encore acquis. Et si Square Enix pense le rentabiliser sur les sorties des nouvelles consoles, je pense pas, parce que les gens ils l'ont déjà fait précédemment sur les anciennes consoles, plus sur PC, et franchement, si je conseillerais une version de prendre sur Tomb Raider, ça serait maintenant, ça serait avec les soldes Steam, quoi. Et pas attendre, ouais, les voilà, le jeu il est quasiment pas cher, tu peux le trouver en gros même pas à moins de 20 euros sur internet, et
bah ouais, il était à 7,50 euros, ouais. Donc voilà, les soldes des VGX, quoi, donc voilà.
Donc voilà, pourquoi attendre les prochaines consoles, ça sert à rien.
Dwayne.
Non, mais voilà, vous avez tout dit, c'est assez inutile. Bon, après, effectivement, le sortir sur faire un petit portage rapide, moi c'est plus la com, voilà, le fait qu'ils aient annoncé oui, Sif plus autre chose, c'est plus au niveau de la com, mais sinon c'est évident que c'est bien pour eux, ça fait un petit portage pas cher avec tous les DLC inclus, et pour ceux qui l'ont pas encore fait, ben le faire sur Next Gen, effectivement, ça peut être plus intéressant, vu que là ceux qui ont acheté leur console n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, mais sinon voilà, c'est plus l'annonce qui m'a gêné.
Et puis ça fait une sortie pour le mois de janvier aussi, un mois de janvier qui va être particulièrement vide. Donc pourquoi pas.
Bah janvier, février, hein, on commence qu'en mars.
Ouais.
Ensuite, on va passer, alors là pour le coup, à l'annonce moteur, hein, c'est Massive Entertainment qui est derrière The Division, qui en a profité pour faire une démonstration de son petit moteur. Bon, après le jeu, on l'a pas vraiment vu, hein. Morgan.
Non, mais le moteur, alors on est d'accord, hein, c'est une vidéo moteur, c'est-à-dire que voilà, concrètement c'est pas le jeu qu'on aura entre les mains dans quelques mois, mais ça, c'est difficile de pas être impressionné en fait, parce qu'on a une gestion des lumières, des particules, etc. Moi j'ai été très impressionné de voir le mec en fait tirer dans un panneau en fait. Donc les impacts de balles se mettent en fait de façon très précise dans le panneau, et puis il y a le soleil qui est derrière et on voit les raies de lumière en fait qui traversent le panneau. Moi j'ai, voilà, ma mâchoire s'est un petit peu décrochée.
Après, est-ce que ça sera vraiment inclus dans le jeu au final?
Non, je suis persuadé que voilà, on n'aura jamais cette qualité-là dans le jeu, hein, parce que on est d'accord que là, il n'y a pas de personnage dans ce monde, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est gérée, voilà. Le jeu est dépouillé de tout ce qui fait qu'il est jeu, en fait. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo de moteur. Après, si effectivement c'est comme ça dans le jeu, là on peut parler de next gen, tu vois. Donc bon, pourquoi pas, mais en l'état sur cette vidéo qui est promotionnelle, hein, on est tout à fait, on est d'accord, c'est une vidéo de moteur. La seule chose qu'elle est censée faire, c'est impressionner, et elle a réussi.
Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est la gestion de la neige.
Oui.
Le fait que la neige fonde, etc. Il y a vraiment une vraie gestion de la neige. Et c'est la première fois, je crois, que je vois ça dans un jeu vidéo. Après, bon, le reste, voilà, c'est un moteur. Bon, je dis pas, hein, c'est super, etc. Mais j'aurais quand même voulu voir une vidéo de gameplay. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus, quoi. ATH.
Je n'avais rien à dire, mais bon, c'est beau.
Dwayne.
Ouais, non, c'est le moteur, il est pas mal, c'est vrai. Le snowdrop, comme tu dis, les effets au niveau de la neige. Après, moi, voilà, c'est une vidéo de moteur, une vidéo promotionnelle assez classique, et ça a encore montré que les éditeurs n'étaient pas, enfin, les gros AAA n'étaient pas super intéressés par les VGX cette année, oui. Vu qu'ils ont déjà annoncé pour demain, enfin, ils ont dû annoncer il y a quelques jours, Massive Entertainment, un trailer pour demain, donc voilà, ça montre encore une fois l'importance que prêtent les éditeurs aux VGX.
Bon. Sur cette cérémonie, entre guillemets, on a eu quand même quelques séquences de gameplay.
Oui.
Bon, on en a retenu que deux parce que le reste c'était acheté, hein, faut être honnête. Donc celle qu'on a retenue, c'est d'une part Quantum Break, même oui. Si à titre personnel j'étais moyennement convaincu, mais bon, c'est une autre affaire. Et Dying Light. Donc on va commencer avec Quantum Break et Dwayne, tu vas garder la parole.
Oui, bah Quantum Break. Moi, voilà, c'est quelque chose que j'attends vraiment. J'attends vraiment de voir déjà ce que Remedy va faire avec son concept qui, donc là, pour moi, ressemble un peu à celui de, donc là, d'un autre jeu. Donc ça s'appelait Defiance, voilà. Defiance. Donc le fait de mélanger séries télé et jeux vidéo. Donc ils ont essayé avec un, donc je ne vais même pas dire un succès mitigé, c'est objectivement nul, Defiance. C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder cette série, j'ai essayé de jouer un peu au jeu pour voir, donc, ce côté cross-média. Donc voilà, ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'ils avaient des moyens, ils ont mis une moitié sur l'un, une moitié sur l'autre, et les deux sont ratés. Que ce soit la série ou le jeu. Donc,
on a perdu Tyran.
Là avec Remedy, donc ils essayent effectivement de faire avec Quantum Break, de mélanger la série et le jeu. Donc là exactement, c'est vraiment tout va être dans le même disque. Donc après, pour ce qui a été annoncé, donc on a vu un peu de gameplay, donc le côté TPS ressemble, voilà, va ressembler beaucoup à Max Payne, même ils l'ont dit. Après, ce qui va être intéressant, c'est le côté time travel, donc déplacement. Grâce au fait que l'on peut contrôler le temps, effectivement, le fait qu'on pourra aussi à certains moments dans l'histoire contrôler le méchant qui lui a des pouvoirs surnaturels, donc plus élevés plutôt au niveau du déplacement temporel. Donc après, ce qui m'a vraiment frappé, c'est déjà que c'est très beau, donc au niveau graphique, je pense que ça va bien montrer à ce moment-là ce que peut faire la Xbox One. Et donc voilà, après avoir, vu qu'ils n'ont pas montré grand-chose non plus, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir par la suite comment ils vont gérer vraiment cet aspect série télé, enfin cet aspect cross-média en fait dans le jeu.
ATH. Ouais.
Ce qu'on a vu aussi, c'est que Sam Lake est très très bavard. Et à la place de parler autant, ça aurait été mieux qu'il profite de nous montrer plus de gameplay du jeu, parce que là, ce qu'on a vu, c'était un TPS quand même assez classique, avec le système de couverture hérité de Gears of War, qui a été repris dans de nombreux TPS par la suite. Et moi, quand on parle de Quantum Break, qu'on attend le plus, c'est tous ces changement temporel et voir comment ça implique le gameplay du jeu. Et malheureusement, la chose la plus importante, enfin la plus grosse nouveauté, on l'a pas vu dans la vidéo. Et c'est vraiment dommage, ils auraient peut-être dû mettre l'accent dessus. Donc on attendra finalement.
Je suis exagéré, ATH. À un moment donné, on a vu le temps qui était en mode pause et ça ressemblait vachement à Max Payne, mais.
Waouh. Ça va montrer comment tout se joue. Hein. Je suis vraiment emballé là. Ça va me faire acheter le jeu et la Xbox One. Non mais franchement, parce que Sam Lake, c'est bien beau de nous dire que c'est un mix entre Alan Wake et pour l'aspect narratif et Max Payne pour le côté gameplay, mais voilà, c'était joli, mais j'ai rien appris de plus finalement.
Morgan.
Ouais, mais c'est surtout qu'on a quasiment rien vu de plus quoi.
Ouais.
Parce que c'est gentil de nous avoir montré on va dire 10 secondes de phase d'action, mais concrètement on a vu, enfin, la plupart des images qu'on a vues, en fait, c'est des trucs qu'on avait vus à l'E3.
Ouais, le CGI.
Au bout d'un moment, faut sortir les doigts du cul, quoi. Enfin, on essaie de faire un événement, si on lui donne pas de matière, le truc perd en crédibilité, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage, en fait, d'avoir pris ça par-dessus la jambe. Si c'est pour faire ça, autant faire sa propre promo en fait de son côté quoi. C'est typiquement le genre de truc qu'on aurait pu voir en carnet de développeur en fait, qu'on aurait pu voir sortir je sais pas dans un mois, dans une news tranquille en fait, et qui n'aurait rien eu à voir avec les VGX. Et c'est ce que je trouve dommage en fait de manière générale avec ces VGX là. Tu l'as dit par rapport à Ubisoft et The Division, c'est que pour le coup, au niveau du contenu, je pense que ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire que pas grand-chose, quoi.
Et par contre, pour le coup, là, il y a un jeu qu'on a vraiment vu en profondeur, c'est Dying Light. Alors, ouais. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ce jeu, grosso modo, c'est Dead Island en mode parcours, à la Mirror's Edge.
C'est ça.
Alors moi, j'ai trouvé cette longue séquence de gameplay très intéressante. Pourquoi ? Parce que ça change, tu vois, un peu d'avoir un FPS qui va jouer un peu sur la verticalité, qui va aussi se jouer en mode pas forcément je fonce dans le tas et je tire, ou mais plutôt en mode alors là il y a plein de zombies, il vaudrait peut-être mieux que là je grimpe sur le toit, que je saute sur le poteau, que je grimpe sur le poteau, qu'ensuite je me raccroche à la fenêtre. Enfin, vous voyez quoi, il y a vraiment un... en termes de level design, en tout cas, je pense que c'est un jeu qui va être très intéressant. Après, j'avoue qu'en termes de direction artistique, etc., je suis beaucoup moins convaincu, mais là, c'est très subjectif, on va dire. Dwayne.
Je suis assez d'accord.
Non, c'est clair que Dying Light, bon, comme je l'ai dit, moi, ça m'avait bien tapé dans l'œil lorsqu'ils avaient montré la première vidéo de gameplay. Après, j'ai pu le tester effectivement à la Paris Games Week. Donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout que c'est l'un des premiers jeux que je trouve vraiment next-gen. Parce que quand, là, les vidéos, effectivement, on le voit pas vraiment, mais quand tu le vois en vrai, c'est vraiment très beau déjà. Ça, là, tu vois que tu passes sur une autre génération, donc par rapport à ce qu'il y avait à côté, Assassin's Creed ou Killzone Shadowfall. Donc après, ce qui est super intéressant, effectivement, c'est l'aspect parcours, où vraiment, dès que tu vois un endroit, tu peux y aller, donc tu peux monter sur n'importe quel toit. Vraiment, tu peux aller partout. T'as pas besoin de contourner, c'est vraiment l'aspect effectivement très très vertical qui va être intéressant. Après, il y a aussi le fait que qui est effectivement ce passage jour nuit, et là les zombies effectivement sont assez calmes, on va dire, la journée, et la nuit ça devient vraiment hardcore. Donc moi, c'est vrai que même sur une petite démo, il y avait pas mal de bruit à côté. J'ai mon cœur qui a pas mal battu la nuit, parce que on te dit que tu dois rentrer. En fait, il est 21h, donc après ça commence, là les zombies commencent vraiment à être violents, et il faut vite que tu rentres, que t'envoies un message pour rentrer à la base, vite, ouvrez-moi. Enfin, il y a vraiment cette tension la nuit et la journée, le fait de se balader, de crafter. Enfin, ça a l'air pas mal, c'est vraiment un jeu que j'attends, donc à voir.
ATH.
En tout cas, pour te rassurer, Dwayne, moi je l'ai pas vu en main directement le jeu, mais sur la vidéo, je t'assure aussi que ça faisait assez next-gen, c'était assez beau ce qu'on a pu voir au VGX. Notamment tout ce qui est la faune et la flore, quand tu vois les palmiers qui bougent, etc., ça fait quelque chose quand même. On n'avait pas ça sur les anciennes générations. Et ce que je trouve aussi assez important dans Dying Light, c'est que ça soit très centré finalement sur le corps à corps. et qu'on n'a pas beaucoup de d'armes à feu en fait. Et ça change des TPS, des FPS où on a des Kalachnikovs et on tire sur tout ce qui bouge. Et j'espère bien que ce côté-là du jeu, ça va être un plus par rapport à Dead Island, et que ça sera pas un copier-coller de ce gameplay-là. Après, c'est sûr que voilà, les promesses qui ont été faites par rapport à quand la nuit tombe, les zombies sont plus agressifs, ça peut apporter quelque chose supplémentaire à l'expérience. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un jeu à surveiller et par défaut aussi la meilleure vidéo de gameplay des VGX, parce qu'il n'y a rien eu d'autre à côté quoi à se mettre sous la dent.
Quand la nuit tombe, les zombies sont plus agressifs. Ça doit te rappeler quelque chose, ça, Morgan.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Bon, je vous propose d'arrêter là pour cette passionnante cérémonie, n'est-ce pas?
Hein ouais.
Voilà. On va passer à la suite. Là, je vais passer maintenant à mon coup de gueule de la semaine. Et ce coup de gueule, c'est un coup de gueule Square Enix. Je dédicace à toi.
Je pense à toi.
Qu'est-ce que dédicace Square Enix? Alors,
l'endeuil smiley.
Pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité Steam cette semaine, il y a eu une sortie. Et cette sortie, c'est Final Fantasy VIII. Alors, vous me direz, ouais, ok, qu'est-ce que t'as à nous dire dessus, connard?
Pourquoi le connard?
Cool story, bro.
Voilà. Alors, Final Fantasy VIII est ressorti sur Steam cette semaine. Et pourquoi je vais vous faire un coup de gueule dessus? Déjà, pour son prix. Alors, à la limite, moi qui le sorte à 13€, très bien, je trouve que c'est une escroquerie, mais après tout, si les gens veulent le payer, pourquoi pas? Moi, je le paierai pas ce prix-là, en tout cas. Là où ça me pose un vrai problème sur le prix, c'est que nous, on le paye 13€, et que, aux États-Unis, il est vendu 12$.
Donc, ce qui fait 10€. Hein.
Voilà. Donc, ça veut dire que le taux de conversion, déjà, chez Square Enix, on a un petit problème, tu vois, avec la calculette, il y a un petit souci. Ensuite, j'ai un autre problème avec cette version, c'est qu'elle est identique à la version PC qui est sortie à la fin des années 90. Et cette version, elle avait un petit souci par rapport à la version PlayStation, c'est que les musiques étaient enregistrées au format MIDI. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le format MIDI, c'est un format d'enconnage de merde. Voilà. Donc ça veut dire que on paye un jeu plein pot à 13€ et qu'en plus on se tape des musiques de merde qui n'ont même pas été foutues de corriger. Mais bordel, là je suis désolé, hein. Je veux bien être conciliant, mais à un moment donné, il va quand même falloir arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. C'est totalement abusif, quoi. Merde. Déjà avec Final Fantasy VII, ça m'avait gonflé prodigieusement qu'ils ressortent le jeu sur PC sans refaire la traduction, parce que c'était quand même le minimum, hein, parce que je suis désolé, vu la qualité absolument merdique de la traduction de FF7 en euros, c'était le minimum de le retraduire, tu vois, hein, surtout au prix où ils le vendent.
C'est clair.
Et là, on nous refait la même avec Final Fantasy VIII. Et là, c'est pour le coup, c'est les musiques, quoi. Surtout que les musiques, je veux dire, ça fait longtemps qu'il y a des mods qui corrigent le problème, tu vois. Sauf que, malheureusement, les mods ne sont pas compatibles. Ah putain, non mais sérieux. Là, franchement, on nous prend pour des cons. Je suis désolé, on nous prend vraiment pour des cons et pour des vaches à lait. ATH.
Ouais, surtout que le jeu est sur le PlayStation Store et à 9,99$, donc 9,99€. Et c'est la version PS1, donc avec pas des musiques en medley. Et c'est Final Fantasy VIII et qui ressort entre guillemets sur Steam. Et finalement, les joueurs PC, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils ont, s'ils ont envie de rejouer à Final Fantasy VIII, ils vont prendre un émulateur PS1 et ils vont mettre le jeu...
Ah non, non, ATH, je suis à tort. Il est deuxième des ventes de Steam.
Ah bon?
Oh là là.
Non, mais là, c'est totalement... Sur PC, tu peux l'avoir gratuit. Je comprends pas. Square Enix essaie de faire de l'argent facilement en escroquant... En parlant aux nostalgiques, tu vois.
Non, mais ATH, loin, tu vois. Ça, c'est la preuve qu'on dit tout le temps « Oui, les joueurs PC, c'est des méchants pirates, etc. » La preuve que c'est des gens honnêtes. Ils sont suffisamment cons pour payer un truc qui est mal tourné, quoi. Voilà.
Et en plus ça, tu comme tu en avais parlé tout à l'heure, l'année dernière, ils ont sorti Final Fantasy VII. Et ils avaient proposé un DLC qui permettait d'être au niveau 99, en fait. en moyennant certaines sommes. Là, je suppose qu'ils vont le faire aussi pour Final Fantasy VIII. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour Final Fantasy IX et la prochaine escroquerie et le coup de gueule de Tian.
Moi, à la limite, tu vois, qu'ils sortent ce genre de DLC, si j'en sois assez qu'on payait, tu vois. Voilà, hein, je veux dire, à un moment donné, ils auraient tort de se priver, je veux dire, à un moment donné, si les gens réfléchissent pas, voilà, quoi. Mais là, c'est, pour moi, on a atteint le summum du foutage de gueule, quoi. À ce niveau-là, je vois pas comment on peut faire pire. Ah, si. Y en a qui sont pas mal aussi en ce moment, c'est Konami. Alors, Konami, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu l'affaire Skullgirls. Alors, Skullgirls, déjà, c'est un jeu qui a récemment été financé sur Indiegogo, pour un portage PC. C'est d'ailleurs pour ça que le portage PC n'est pas concerné, vu que Konami n'était pas impliqué dans ce portage-là. Ce qu'il faut savoir avec Skullgirls, c'est qu'ils ont eu un petit souci, c'est que Konami avait une certaine tendance à traîner des pieds pour sortir les patchs. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, écoutez, Konami, vous êtes bien gentils, hein, mais on va faire sans vous, en gros, quoi. Donc, Konami est un peu mauvais joueur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils réclament que Skullgirls soit retiré du Xbox Live Arcade et du PSN, en attendant qu'on retire leur toute mention de la participation de Konami au projet, quoi. Ce qui est quand même assez couillon. Faut le lire, hein, non, mais parce que bon, déjà, on sait pas trop ce qui va se passer avec le online, déjà. Est-ce qu'il sera toujours actif quand le jeu sera retiré du Xbox Live et du PSN? On n'en sait rien. Ensuite, on ne sait pas. Enfin, disons que a priori, normalement, sur Steam, quand un jeu est retiré, tu peux le télécharger toujours. Ce que moi, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne sur Xbox Live Arcade et PSN. J'espère pour les ceux qui ont acheté le jeu qu'ils vont toujours continuer à télécharger. Bon, après, le truc, c'est que de toute façon, le jeu finira par revenir. Hein. Je veux dire, c'est juste retirer Konami du logo. Ah, sauf peut-être sur Xbox Live Arcade, mais parce que sur Xbox Live Arcade, tu ne peux pas sortir un jeu en démat si tu n'as pas d'éditeur. C'est une absurdité de Microsoft, qui sera d'ailleurs corrigée sur Xbox One. Mais sur Xbox Live Arcade, tu ne peux pas sortir un jeu si tu n'as pas d'éditeur. Donc, bon, de toute manière, ça, c'était prévu. Ils sont en négociation avec quelqu'un, enfin, avec un éditeur, pour ressortir le jeu sur Xbox Live Arcade. Mais là, ça prendra peut-être plus de temps que prévu. Dans tous les cas... Je ne comprends pas la réaction de Konami. Ils se font de la mauvaise pub avec ça. Et tout ça pourquoi ? Pour faire perdre de l'argent à un studio qui, de toute façon, je veux dire, finira par ressortir le jeu qui fait de l'argent sur Steam. Enfin, moi, je trouve ça totalement idiot. ATH.
Ouais, moi, j'avais deux, trois questions par rapport à Skullgirl. C'était pas un jeu qui était kickstarté ? Il était en financement sur Kickstarter?
Non, c'était sur Indiegogo.
Oui, pour ajouter même de nouveaux personnages supplémentaires,
oui, non,
etc.
C'était pour la version PC, déjà.
Ouais.
Parce qu'il était déjà sorti sur console, il me semble. Hein. Là, je parle de mémoire.
Oui, il était déjà sorti, ouais, sur console.
Et
là,
en fait, la campagne Indiegogo servait non seulement à sortir le jeu sur PC, mais aussi à rajouter effectivement de nouveaux personnages qui ont été ensuite rajoutés gratuitement sur console.
D'accord, c'est pour ça,
c'est
en fait,
aussi pour ça qu'ils ont coupé le contrat avec Konami, parce que s'ils mettent une éternité à sortir les persos, voilà quoi.
Ouais, c'est pour ça que je comprenais pas qu'est-ce que Konami venait foutre là-dedans, quoi. Pourquoi ils auraient besoin d'un éditeur comme Konami si le jeu l'a été financé et qu'ils pouvaient eux-mêmes s'éditer, être
justement
auto-éditeur.
Parce qu'à la base, le jeu a été édité par Konami, en fait.
D'accord, ouais, c'est ça que je savais pas capter.
Pour le sortir sur console. Donc voilà, les bizarreries de Konami, enfin bref, n'importe quoi. Donc ensuite, là, on va maintenant parler du jeu vidéo français, n'est-ce pas ? Mordren, je crois que cette semaine, on a un sénateur qui a profité d'une réunion pour évoquer un peu le financement du jeu vidéo français.
Ouais, c'est un sénateur des Verts qui s'appelle André Gattolin, qui a en fait proposé un certain nombre de réformes, on va dire, enfin, de taxation en fait autour du jeu vidéo. Alors attention, hein, pas forcément taxation pour le pire, c'est-à-dire que la première chose qu'il aurait proposé, c'est une taxe qui s'inspirerait en fait de ce qui existe en ce moment sur le cinéma français. Donc c'est-à-dire que, bon, je sais pas si vous savez, mais il y a 11% en fait de chaque billet de cinéma que vous achetez qui est reversé au CNC.
Comment ?
Au Centre National de Cinématographie.
Scandaleux.
Ce qui a causé un certain nombre de scandales cette année, notamment autour de la rémunération des acteurs, par exemple. Bon, c'est-à-dire que il y a une bonne partie de l'argent en fait qui est utilisé par le CNC pour certes financer des projets français. Pas forcément de façon très claire comme de l'eau de roche d'ailleurs, et qui vont parfois directement dans la poche des acteurs et qui produisent finalement des films un peu pourris, hein, on va pas se cacher, enfin on va pas se voiler la face. Donc en tout cas, voilà, la première chose ça serait donc de s'inspirer de ce qui existe avec le CNC et donc le cinéma, pour la porter vers le jeu vidéo, c'est-à-dire que on veut mettre en place un espèce de cercle vertueux de taxation, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques centimes sur l'achat d'un jeu vidéo, on parle d'une dizaine de centimes, et on va le reverser directement en fait à un organisme qui pourrait être créé et qui servirait ensuite à financer certains projets de jeux vidéo qui sont développés en France. Donc sur le papier, évidemment, des studios de développement français sont pas forcément contre, hein, évidemment, ça va leur donner de l'argent. Après, est-ce que c'est réellement possible ? Est-ce que c'est forcément souhaitable d'ailleurs, parce que voilà, si encore une fois on s'inspire du modèle du CNC, ça peut vite devenir problématique. Et si c'est pour avoir le même scandale qu'on a eu cette année au niveau du cinéma, bah dans 5 ans, c'est peut-être pas forcément la peine, parce que voilà, c'est aussi pas mal de copinage et finalement les subventions sont données un petit peu par-dessus la jambe et certains projets qui n'ont pas forcément besoin et du coup voilà, est-ce que ça pourrait améliorer le jeu vidéo français, j'en suis pas certain. Est-ce que ça ramènerait des studios qui sont à l'étranger vers la France, j'en suis encore moins certain, parce que clairement c'est pas ça qui va nous améliorer la situation du jeu vidéo en France par rapport au Canada par exemple.
Ah non, mais donc, qu'on soit clair, hein, vu le dumping fiscal qu'ils font au Canada, c'est même pas la peine d'y penser, quoi.
C'est clair.
Il y a aucun intérêt pour les studios qui sont au Canada actuellement de revenir en France. Alors moi, à la limite, payer une taxe pour financer le jeu vidéo français. Ok, ouais, non, mais pourquoi pas. À ce moment-là, je choisis à quel studio va ma contribution. Parce que
tu rêves.
Il n'est pas question que je donne ne serait-ce qu'un seul centime à des types comme Nicolas Gaume, qui a une notoriété, si vous voulez, pour jeter l'argent par les fenêtres sur ses projets à lui, hein. À condition qu'il est quand il termine d'ailleurs, hein, ses projets. Donc voilà, moi il n'est pas question qu'on fasse un système comme le cinéma français justement, où c'est en mode copinage, hein, si tu veux, si t'as le bon carnet d'adresses, t'es sûr d'être financé. Surtout que le jeu vidéo français, c'est déjà suffisamment de la mafia comme ça, si je peux me permettre, hein. Déjà il y a ça. En plus, bon, le mode de financement, je veux dire, alors l'idée, si j'ai bien compris, c'est de prélever une certaine somme sur les supports physiques. Ouais, sauf que je sais pas s'il a remarqué, mais les supports physiques, ça se cache la gueule, hein, donc c'est pas vraiment une taxe pérenne. Alors j'entends bien que le gars dit qu'il faut bien prendre l'argent où il est, parce que c'est vrai que de toute façon, même s'il voulait, même s'il veut taxer Steam, il pourra pas le faire techniquement. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire une taxe avec tout ce que ça implique derrière en termes de gestion de l'argent, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça, avec tout ce que ça implique en termes de coûts, pour que derrière, dans 3 ans, on se rend compte que, ah bah tiens, le support physique, il y en a plus tellement, hein, donc on fait comment maintenant, hein. Enfin voilà, quoi. Moi, je suis vraiment très moyennement convaincu. Dwayne.
Non, c'est clair qu'après, ce qui est intéressant, c'est plutôt la réflexion dans un premier temps, Parce que oui. C'est vrai que la loi en elle-même, enfin, ce qui est proposé, donc là, de taxer les jeux, donc ça va ramener de l'argent. Après, il y aura toujours des dérives. Mais c'est intéressant déjà de réfléchir par rapport à tout ça, par rapport au financement. Parce que pour le jeu vidéo, je pense que il pourra pas y avoir le même type de taxe que pour le cinéma. Au niveau du jeu vidéo, on est vraiment attaché aux frais. Enfin, on a déjà des choses comme Kickstarter qui fonctionnent très bien, des choses où on peut voilà, créer nous-mêmes, enfin financer nous-mêmes les jeux que l'on souhaite. Donc là, après, à ce niveau-là, ce qu'il faudrait plus, c'est créer il y avait voilà une proposition pour un Steam à la française. Il faudrait plutôt créer un vrai Kickstarter français, enfin une vraie plateforme qui soit un peu connue de tous, parce que Indiegogo, c'est vrai que c'est déjà là, mais voilà, ce serait avoir un financement pour créer une plateforme où les développeurs pourraient demander un financement. Donc une plateforme qui soit connue de tous, parce que Indiegogo, c'est vrai que lorsque je navigue dessus, déjà c'est assez pauvre, c'est assez triste en fait quand je navigue sur Indiegogo. Donc après, moi, ça serait
plutôt...
T'as
pas vu les autres plateformes de financement participatif, hein?
Oui, non, je sais, il y en a encore plus moisi. Non, mais je veux dire, rien que quand tu navigues dessus, ça te donne pas envie de financer. Tu te dis, attends, est-ce que c'est un truc vraiment légal? Enfin, voilà. Non, mais, enfin, c'est, voilà, la taxe en elle-même, moi, je suis pas convaincu du tout, parce qu'il y aura de toute façon des dérives, et pour moi le jeu vidéo ne pourra pas avoir le même type de taxe que le cinéma. Il faudrait vraiment créer quelque chose d'adapté qui ressemblera plus à une plateforme, à la Kickstarter, où chacun va mettre l'argent qu'il souhaite sur les projets qu'il veut.
Non, mais surtout qu'en plus moi je ne me fais aucune illusion, parce que je veux dire, en face, ils ont quoi comme acteurs? Ils ont Activision, ils ont Electronic Arts, enfin voilà, tous ces acteurs-là, ils ont strictement aucun intérêt à ce qu'on taxe leur jeu, alors que je rappelle, c'est des éditeurs étrangers, hein, ils ont aucun intérêt en France, pour financer le jeu vidéo français, donc pour financer des concurrents, quoi, en gros. What? Jamais de la vie ils laisseront passer ça, quoi. Bon, après ils pourront toujours tenter de passer en force, mais bon, de toute façon, moi là, franchement, à mon avis, c'est bon. Quelque part, je trouve ça rassurant de voir que des politiques s'intéressent aux jeux vidéo. D'autant plus que pour avoir écouté une émission de Silence on joue où ce sénateur-là était présent. C'est quelqu'un qui a vraiment relativement bien connaître le jeu vidéo pour une fois. C'est quelqu'un qui a l'air de vraiment connaître son sujet. Après, moi, la solution, encore une fois, c'est bien de proposer des choses, mais faut que ça soit pérenne, quoi. Ça sert à rien de faire un truc pour que dans 5 ans on dise bah non, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin,
ouais.
Je vois vraiment pas l'intérêt pour le coup, quoi. Morgan.
Ouais, et puis bon, faut pas oublier que le jeu vidéo va également être touché par la hausse de la TVA l'année prochaine. Donc voilà, ils vont chercher l'argent où il y en a, mais voilà, ils ont déjà trouvé comment récupérer de l'argent sur le jeu vidéo. Donc vous en faites pas, le jeu vidéo va être plus cher l'année prochaine, c'est pas un souci.
Yeah.
Ok, bon, alors...
Attends, juste une petite précision aussi à rajouter, parce que il y a... Concernant ce projet de loi, il y a aussi un truc qui a été voté il y a pas longtemps, c'est que même les jeux avec un contenu PEGI 18 pourront avoir ce financement, sauf que il ne faudrait pas que le jeu soit trop violent. Et ça, je trouve ça totalement contradictoire, parce que si c'est un jeu 18 plus, PEGI 18 plus, comment tu ne veux qu'il ne soit pas violent, ou bien qu'est-ce que tu appelles trop violent ou pas assez violent? Par exemple, est-ce qu'un GTA 5 serait trop violent? Et où je sais pas, par exemple, un Resident Evil serait assez trop violent. Je comprends pas quels seront les critères sélectionnés pour trop violence ou pas.
Mais là, c'est comme d'habitude, ça va être fait par un comité, et en fonction de des personnes qui sont dans le comité, bah t'auras ta subvention ou pas. Donc c'est comme d'habitude, c'est en fonction des personnalités qui sont à l'intérieur de la commission, et voilà, ça va être pile ou face, quoi, comme d'habitude.
C'est con quand même pour un jeu PEGI 18 qui s'adresse à une certaine catégorie de personnes d'en arriver là quand même. C'est totalement contradictoire. Enfin bref.
voilà pourquoi je veux que ce soit les personnes qui foutent leur fric dans les jeux qui décident où va l'argent, quoi. Parce qu'on se retrouve typiquement avec ces critères à la con typiques des politiques français, hein, où on te dit que, alors si c'est assez culturel, si y a pas trop de violence, enfin voilà, critères à la con, quoi. Hein.
Vous pouvez tuer les zombies, mais il faut utiliser une fourchette française, messieurs.
I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... Oh, Christ!
Dwayne, je me tourne vers toi maintenant, parce que on va parler d'un studio qui s'appelle Tiny Build Games, et moi, je ne connais absolument pas ce studio. Donc, du coup, c'est toi qui vas faire toute la présentation. Alors, Tiny Build Games, c'est quoi, et pourquoi tu veux nous en parler aujourd'hui?
Voilà, donc, Tiny Build Games, donc, c'est un petit studio, donc, américain, qui a fait pour l'instant, donc, deux jeux. Pourquoi je vous laisse vous en parler, donc, surtout par rapport à un jeu que j'ai testé, que j'ai fait il y a quelques jours, donc qui s'appelle Speedrunners, et qui m'a fait donc faire un de leurs jeux qui est sorti en début d'année, donc qui s'appelle No Time to Explain. Donc c'est un petit studio assez assez intéressant, enfin je trouve qu'il y a un petit humour sympa. Donc déjà leur premier jeu donc qui est sorti en janvier 2013 sur Steam, donc le 25 janvier 2013 sur Steam. Donc là, ça s'appelle No Time to Explain. Donc c'est un peu mon style de jeu à la South Park, un peu bien débile. Hein. Donc c'est-à-dire que le début du jeu, en gros, c'est je suis toi, je viens du futur. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Viens avec. Oh merde ! Et puis là, il y a un crabe géant qui l'attrape.
Ah oui, on en avait parlé de ce jeu il y a longtemps.
Voilà. Donc ça, c'est No Time to Explain. Hein. Donc voilà, un petit platformer bien sympa. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout donc qui teste pas mal de gameplay super sympa avec la physique, le fait que t'aies un espèce de rayon laser qui te sert de jetpack, et ensuite tu changes d'univers vraiment, c'est-à-dire qu'on est sur un principe de vortex temporel, c'est-à-dire que le niveau est construit, tu commences, ensuite tu finis sur un vortex temporel et tu repars directement vraiment sur un autre univers, quelque chose de tout à fait différent. Donc là, ça c'est No Time to Explain, un platformer. Donc au niveau du design, c'est un peu le dessin d'un gamin de 5 ans, mais ça a un charme assez particulier, c'est-à-dire que soit t'aimes, tu adhères à la chose et t'adores, ou soit tu détestes. Donc voilà, c'est un design assez particulier à ce niveau-là. Sinon, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est surtout l'humour au niveau du jeu, et le fait qu'ils testent beaucoup d'univers et de gameplay différents sur le jeu. Donc c'est vraiment un petit jeu super sympa. Après, là où j'ai été vraiment très intéressé par le studio, c'est par rapport à un autre jeu qu'ils ont sorti donc là en août 2013, donc qui s'appelle Speedrunners. Donc là, c'est un espèce de mélange entre un jeu de plateforme et Mario Kart, on va dire. C'est-à-dire que c'est un jeu de plateforme en fait compétitif. Et là, lorsque j'ai commencé à jouer, donc déjà au niveau des graphismes, donc c'est un peu style cartoon. Donc pour ceux qui ont fait Guacamelee, ça y ressemble un peu dans le design. Après, donc voilà, c'est vraiment lorsque j'y ai joué, je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est con, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. C'est-à-dire que c'est super fun. Donc c'est pour expliquer, c'est un jeu de plateforme où en fait tu avances. Ensuite il y a des items que l'on peut récupérer, donc par exemple des grappins pour reprendre l'adversaire qui est devant toi. Donc là c'est pour l'instant en accès anticipé sur Steam, donc on peut tester. Donc là, ils sont en bêta, toujours en train de développer le jeu. Donc voilà, t'as des grappins, des bombes, et puis ça se joue en général à 4. Donc tu avances en fait dans le niveau. C'est un platformer assez classique à ce niveau-là. Après, t'as des boosts, des turbos. C'est vraiment fluide. Donc déjà par rapport à la bêta. Donc le tyran, tu voulais.
Oui, juste une question toute con. Hein. Speedrun, y a rapport ou pas du tout?
Donc il y a un rapport dans le fait où on court vite, mais pas de rapport. Tu parles par rapport à la pratique.
C'est pas un jeu qui est pensé, disons, pour les speedrunners.
Ah oui, ça c'est clair parce que j'y ai joué, mais il y a des gens, c'est des tarés parce que t'as un système de grappin et la façon dont t'as parfois des gens qui se déplacent, c'est-à-dire que tu as une plateforme où tu vas devoir, par exemple, faire des sauts sur des murs parallèles. Donc eux, ils accrochent le grappin en bas pour ensuite repasser vraiment sur la plateforme juste au-dessus sans faire aucun saut. Donc il y a vraiment des gens, on voit, qui ont développé vraiment un skill abusé sur ce jeu. Et c'est vraiment super sympa. Donc c'est des parties assez rapides, c'est-à-dire que dès que, bah, comme les jeux de plateforme compétitifs en général, dès que tu sors de l'écran, donc t'as perdu en fait, et donc le dernier à rester dans l'écran en fait a gagné. Et c'est vraiment un jeu super super rapide, super intéressant, et un concept où je me suis dit lorsque j'y ai joué, tiens, c'est bizarre que Nintendo nous ait pas encore fait un jeu comme ça. Mais voilà, ils ont développé un concept vraiment sympa sur Speedrunners, un humour assez bien sur No Time to Explain. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur eux à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à un des deux jeux?
Quand tu parles, enfin, l'humour dans No Time to Explain, c'est quel niveau d'humour, entre guillemets, quoi?
C'est, parce que bon, non, c'est humour un peu bas du front, hein. Lorsque je dis, c'est vraiment dans le sens où j'aime bien leur façon de raconter un peu l'histoire sans grand scénario, on va dire. Mais ce qui m'a vraiment plu que ce soit dans Speedrunners ou dans No Time to Explain, c'est vraiment la façon dont ils testent beaucoup de gameplay différents dans No Time to Explain, par exemple. Donc au niveau du jeu de plateforme, vu que le concept déjà en lui-même est super intéressant, de passer d'un vortex à l'autre, et à chaque fois tu changes de monde, tu changes de gameplay. C'est-à-dire qu'au début, comme je l'ai dit, t'as un espèce de jetpack, après tu vas avoir un style de rocket jump en fait, où tu vas te déplacer uniquement comme ça pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Donc il te teste vraiment une multitude de gameplay différents dans un seul petit jeu. Donc c'est vraiment intéressant. Et l'humour en lui-même, donc c'est dans la façon dont il raconte l'histoire, et c'est vraiment un humour à la South Park, hein. C'est-à-dire que c'est un peu bas du front, et c'est soit on adhère, soit on adhère pas.
Mais il y a justement dans ce côté humour à la South Park, il y a genre ça, est-ce que ça fait réfléchir sur
Non, il y a pas de vraie réflexion encore. Après, d'accord. c'est vraiment encore des petits jeux. Je pense que c'est un studio qui est amené à se développer et à faire des choses un peu plus ambitieuses. Je voulais parler d'eux parce que je sens vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose d'assez sympa. Déjà sur Speedrunner, je pense que ça peut être quelque chose si c'est bien développé, parce que là pour l'instant, donc on a effectivement quelques niveaux, quelques pièges, mais s'ils développent la chose, qu'ils rendent l'expérience, parce que l'expérience est déjà assez fluide au niveau du gameplay, malgré le fait qu'on soit encore sur une bêta. Donc après, ce sera à voir. Je pense que c'est un studio qui est amené à se développer et à être assez connu par la suite.
En termes de durée de vie, No Time to Explain?
En termes de durée de vie, donc là j'ai fait 2-3 heures dessus. Donc après, je ne sais pas exactement la durée de vie qu'il a, comme j'ai fait. Donc après, je pense qu'il y a au moins un bon petit 6, on peut passer 6 heures dessus très facilement, vu que j'ai fait uniquement la saison 1, et il y a une deuxième saison qui est sortie justement cette année. Donc là, ce qui est sorti cette année en fait, c'est le pack avec la saison 1 et la saison 2. Donc moi j'ai fait uniquement la la 1 déjà, et là je vais faire effectivement la 2 dans les prochains jours, mais il y a déjà une bonne petite durée de vie vu que je n'ai pas encore terminé la 1, j'en suis à 2-3 heures dessus.
Tu penses que c'est un jeu qui a une bonne replay value ou une fois que tu l'as fini
Ah oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi j'ai vraiment trouvé ça super sympa et je pense que je vais y revenir assez souvent dans le sens où tu peux encore ensuite t'améliorer sur tes temps ou ce sera à voir à ce niveau-là, mais moi je pense que je vais y revenir assez souvent sur No Time to Explain.
Et alors j'ai un problème moi avec les jeux indépendants qui sont axés sur le online, c'est que généralement l'online est assez vite vide en fait. Pour le moment, il y a beaucoup de monde ou
voilà, parce que là il est sorti en
des gens.
Non, franchement, il est sorti en août et j'attends, allez, on va dire une minute grand maximum pour jouer avec quatre personnes, donc ça va, c'est pas
c'est moins que sur Dota 2.
Voilà, il y a encore du monde quand même dessus, sachant voilà, il est sorti en août, donc là la période, je pense, de buzz est peut-être déjà un peu passée, donc c'est que les gens y reviennent. Moi franchement, j'y joue pas très longtemps, mais t'as envie d'y revenir tous les jours, d'y jouer un peu, donc ouais, il y a encore pas mal de monde sur le multi.
Ok, bah écoute, ma foi, ça a l'air bien tout ça. On peut s'arrêter là, messieurs ?
Ouais.
Bon, vous l'aurez compris, nous sommes assez fatigués, nous sommes couchés tard pour voir une cérémonie pourrie, n'est-ce pas ? Je vous avoue que moi, la nuit prochaine, j'irai me coucher, hein, parce qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, genre dormir, tu vois.
Par exemple.
Par exemple, tu vois. Bon, en l'occurrence, Mandrain n'avait pas trop le choix parce que lui devait bosser, mais nous, c'est par bon. Contre, on n'est pas obligés de se taper ce truc, donc il n'y a aucune solidarité à la rédaction, on le laissera se démerder tout seul, voilà. Bon, allez, messieurs, dames, on vous donne rendez-vous, alors peut-être la semaine prochaine. Ce n'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Ça dépendra des disponibilités de chacun. Sinon, en début d'année prochaine. Bye bye à tous.
Ciao. Salut.